Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Comics Weekly, épisode numéro 57. Cette fois-ci, avec nous, nous avons...
Ben alors, présente-toi, Nono.
Non, je suis timide.
J'attendais que tu te lances tout seul.
Ah d'accord,
nous avons Nono. Ça va bien, Nono ?
Ouais, très bien, et toi-même ?
Bon, écoute, ça va.
Et Benny ?
Ben, ça va aussi. T'enregistres avec ton chapeau, là ?
Oui, toujours. Quand je fais un podcast Comic City, je porte mon chapeau.
Eh bien, voilà. Mais je pense que là, les fans doivent avoir un moment
d'émotion.
Allez, on va commencer comme d'habitude par le numéro de la semaine. Le premier numéro de cette semaine sera le Tales of Suspense numéro 57, scénarisé par Stan Lee, en tout cas pour la partie qui nous intéresse, avec au dessin Don Heck et à l'ancrage George Roussos. Et c'est la première apparition de Hawkeye, œil de faucon en français, qui est apparu donc pour la première fois dans une histoire de Iron Man, puisque Iron Man était publié dans Tales of Suspense au départ, et il est apparu comme un méchant.
Ça allait être ma question, justement. Est-ce qu'il apparaissait comme un gentil ou comme un méchant?
Non, il apparaît comme un méchant.
Avec Black Widow, je crois.
Il est recruté, voilà, par Black Widow, qui avait déjà eu affaire à Iron Man dans le Tales of Suspense numéro 52, et qui là a profité de voir Hawkeye et de le recruter pour se venger. Donc, Hawkeye connaîtra un parcours pour le moins chaotique dans toute sa carrière, jusqu'à même mourir.
Oui.
Et ah, carrément, il est comme ça, lui. Il fait pas les choses à moitié.
C'est un fou, le mec.
Ouais.
Le mec, il meurt et il revient. Sous une autre identité, en plus.
Ouais, non, mais c'est un gueudin, quoi.
Bon, il avait même changé d'identité avant de mourir, hein, puisqu'il avait pris l'identité de Goliath hein, pendant un temps.
Vas-y, comment il pète. Bon, eh ben, à mon tour.
Sur cette remarque, je te laisse la parole.
Alors, un autre personnage qui pète bien, Avengers, et qui n'est pas Steve. Avengers 57, de 1963. À l'écriture, on retrouvait Roy Thomas et au dessin John Buscema, donc vraiment une équipe bien classique. Et c'était la première apparition de la Vision, enfin de Vision d'ailleurs, parce qu'on dit pas la Vision, on dit Vision. Donc Vision, le cyborg, enfin le cyborg, le...
L'androïde.
L'androïde, voilà, c'est vraiment le terme adéquat, qui a fait partie de nombreuses années des Avengers, qui a eu des enfants avec Scarlet Witch.
Des faux enfants.
Des faux enfants. Des faux vrais, au fait, si on lit Young Avengers, voilà. On ne sait pas trop, ça n'a jamais été très clair cette histoire. Toujours est-il que, bah voilà, il va impacter énormément l'équipe et la vie des Vengeurs durant des années. Actuellement, on le voit beaucoup moins. D'ailleurs, je sais même pas dans quoi il est.
Mais il est pas avec les Young Avengers, Rose Crusade?
Si, peut-être, mais alors, est-ce que c'est le vrai, l'original, ou est-ce que c'est un autre androïde construit à partir des bases du premier? Je ne sais même plus. En tout cas, bon, c'est un personnage qui a vraiment impacté l'histoire des Vengeurs pendant de nombreuses années.
C'est le petit frère d'Ultron.
Oui, voilà, c'est ça, exactement. Puisqu'il est, c'est une création d'Hank Pym aussi.
Et toi, Nono, que nous as-tu choisi ?
Voilà, pour moi, mon numéro de la semaine, ça sera un peu plus récent. Ça sera Fable 57, donc qui date de mars 2007.
C'est un petit peu récent, quoi.
Bah, c'est plus récent que vous, déjà. Et donc au scénario, on a l'éternel Bill Willingham, et au dessin, nous avons Mike Allred, qui revient après avoir fait un petit backup dans le Fable 54, de 3 pages, un truc un peu petit, qui n'était pas non plus exceptionnel comme backup, c'était
sa période d'essai, quoi.
Ouais, voilà. Et donc il revient dans le 57, pour un arc en deux.
C'était une vieille vanne avec Vertigo ou...
Alors, attends, c'est période d'essai. Oula, oui, d'accord, oui. Bien sûr, c'était tout était calculé pour que ce soit exactement une date qui fasse rire beaucoup de monde.
Et donc, Michael Red avec sa femme Laura à la colorisation, et donc qui revient donc pour un arc en deux, qui s'appelle Father and Son, qui sont les retrouvailles de Bigby et de son père. Le vent du Nord, Northwind, c'est ça.
Oui, non, il s'appelle vraiment comme ça, c'est ça qui est drôle.
Oui.
C'est pas une marque.
Non.
c'est pas non plus un magazine.
Donc Michael Red qui a un style bien particulier, bien à lui. Certains diront que c'est pas joli, d'autres diront que c'est joli. Et juste pour la petite info, il sera présent avec son épouse au Lille Comics Festival de cette année.
Il me tarde de rencontrer le monsieur. Et la madame aussi.
Et la madame.
Puisque c'est quand même un tandem qui marche vraiment bien. Oui. Comme les Dodson d'ailleurs.
Oui. iZombie, tout ça.
Non, c'est Michael Red, ça.
Oui.
Oui, mais oui.
Ah oui, non, je croyais que tu parlais de Dodson, excuse-moi. Oui, bon, c'est pas grave. C'est confus, c'est le week-end qui commence.
Sur ce,
c'est le week-end.
Oh, merci Nono. Pour passer aux news. On commence par du Marvel. Allons, soyons fous. Donc un petit peu en vrac puisque c'est la San Diego Comic Con, comme vous n'êtes pas, comme vous le niez.
Sans le savoir. C'est la fin de ta phrase que tu cherchais.
Exactement. Comme vous n'êtes pas sans savoir, c'est la San Diego Comic Con. Et donc, news en vrac, puisqu'il y a des news qui sont tombées avant et pendant. Villains for Hire, par exemple, arrive en novembre. Et Villains for Hire, eh bien, en fait, c'est une sorte de relaunch de Heroes for Hire. Toujours par DNA, avec Renato Harlem au dessin. Et bah là, visiblement, Misty Knight, au lieu de se faire une équipe de super-héros, va s'entourer de super-vilains.
Et j'ai pas l'impression que ce soit un relaunch. Je pense que c'est plus une continuité, mais il change le nom du titre.
Oui, enfin voilà, mais enfin en tout cas, le Heroes for Hire disparaît malgré tout.
Ouais, moi ça me déplaît, mais bon. Après, bon, il y a DNA, quoi, mais je sais pas, pourquoi changer la série maintenant?
Et puis vous savez quoi? DNA, présent au Lille Comics Festival.
Et tu vois, c'est pour ça que je faisais la news en premier, tu vois, c'est pour faire une transition superbe. Et,
voilà.
Et voilà, et donc, bah ouais, bah ça surfe sur la vague des Thunderbolts, hein, j'ai envie de dire.
Ouais.
Une espèce d'équipe composée de super vilains peut-être en repentance. Ou alors Misty Knight a complètement pété les plombs. Grosse news qui fera plaisir à plein de monde, il va y avoir une suite à Fear Itself, qui s'appellera...
Un petit cri de contentement.
Voilà. Qui s'appellera Fearless, et ce sera quand même une maxi-série en 12 épisodes. Alors, au scénario, on retrouvera Cullen Bunn, Matt Fraction, donc l'architecte de Fear Itself, et Chris Yost. Donc, voilà. Bon. À voir ce que ça va donner. Au dessin, ce sera Mark Bagley et Paul Pelletier. Donc,
la partie du dessin qui va sauver le reste, quoi.
Ouais, on va dire ça comme ça. Ça sortira à raison de 2 numéros par mois. Donc, c'est pour ça que ça va durer 6 mois. Voilà, avec 12 numéros. Et donc, Fear Itself va continuer après Fear Itself. C'est beau ce que je dis.
Ouais. Putain, on a déjà envie que ça s'arrête.
Non.
C'est tout comme réaction? Bon, très bien. Bon, voilà.
Non, mais, enfin, moi, je te dirais que je serais less fearless.
D'accord, très bien.
Moi, j'irai voir. Pour l'instant, comme j'ai déjà dit, Fear Itself, ça me plaît. Donc, j'irai voir. Si la fin est bonne, j'irai voir ce Fearless.
Bon, ben moi, j'ai envie de dire Fearless, non, mais Desireless, oui.
Voyage,
voyage. Plus loin que la vie et le jour. Bon, voilà. Nouvelle série.
Donc, Buffy a eu son épisode musical, nous aussi. Donc.
Exactement. Aujourd'hui, après toi, entendre de douce musique dans tes oreilles. Autre douce musique dans nos oreilles, Hulk va revenir. Avec Jason Aaron au scénario et Mark Silvestri au dessin.
Mais il est partout ce Jason Aaron.
Ouais. Bon, par contre, ça me fait plaisir de voir Mark Silvestri, même si je suis pas sûr que le mec arrivera à tenir des délais, quoi.
Sinon, autre confirmation. X-Men and the Wolverine sera bien dessiné par Chris Bacalo avec donc Jason Aaron au scénario, encore lui.
Mais il est partout ce Jason Aaron.
Oui.
Il est comme une redite, là.
C'est marrant, j'ai déjà entendu ça quelque part. Donc, autre news Marvel aussi, l'éditeur passe aussi aux comics digitaux. Donc au fait, enfin ça on sait qu'ils font du comics digital, mais le jour de la sortie des comics, ils sortent en même temps des comics digitaux. Est-ce que je suis clair?
Ça, oui. C'est une très bonne nouvelle.
Voilà.
Ah oui.
Donc, exemple, Amazing Spider-Man 666, le coup d'envoi de Spider-Island, sortira en comics digital le jour de la sortie du comics papier.
On a une idée sur le prix? Ont-ils utilisé le même système que DC, c'est-à-dire
voilà, contre,
prix de la cover papier, enfin le prix du papier le jour de la sortie, et puis dégressif au fil des semaines.
Alors je ne sais pas, j'ai pas les détails là-dessus, mais voilà, plus d'infos bientôt, quoi, j'ai envie de vous dire.
En tout cas, c'est une super nouvelle, enfin, les deux gros éditeurs qui se mettent au digital le jour même. C'est bien, si ça peut attirer du monde vers les comics, faut juste espérer qu'on ait les chiffres de vente digitaux aussi ajoutés à les chiffres de vente que l'on a tous les mois. Afin de se rendre compte réellement de combien de personnes lisent des comics.
Moi, si vous voulez mon avis, je vous invite à vous reporter au Comic City Chronicles qu'on avait fait.
Ah oui.
Spécial digital.
Spécial digital.
On avait longuement débattu sur tout ça. Autre news Marvel en octobre, les Legion of Monsters reviennent avec un nouveau titre par Denis Hopeless, décidément, Fearless, Hopeless, Desireless, et Juan Do. Ou Doé, je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà, la Legions of Monsters. Donc, Steve, toi qui kiffes cette Légion.
Content de les voir revenir, maintenant impatient de les lire, pas forcément, surtout que je ne connais absolument pas les auteurs, je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre.
Bah, Hopeless, j'en entends de plus en plus parler, donc c'est assez
Mais moi,
marrant.
j'ai jamais entendu son nom.
Mais moi, cette semaine, quoi. Cette semaine, ça fait bien plusieurs fois que je l'entends, je ne sais pas d'où il sort, mais voilà.
Bon, j'espère que pour la Légion, ce ne sera pas sans espoir.
Oh putain, j'allais la faire.
Oh, excuse-moi, mais je t'en prie, fais-la.
Non, non, mais vas-y, ça a été très bien. J'allais dire, en même temps, il y a peu d'espoir que ça continue, mais...
Très bien. Donc, autre rumeur, alors à confirmer, rumeur qui veut que les Defenders soient réalisés au scénario par Matt Fraction, encore lui.
Oh putain.
Bah, Jason Aaron était occupé, hein, donc ça arrive. Et Terry Dodson serait au dessin, justement, on parlait de Dodson tout à l'heure. Donc voilà.
Ouais. Mais bizarrement, le grand absent de tous ces news Marvel depuis ces quelques derniers mois, c'est Brian Michael Bendis. Non mais où est Bendis?
C'est vrai.
On n'entend plus parler.
Bah oui. Il va peut-être se consacrer au cinéma, je ne sais pas.
Mais depuis que c'est plus Quesada d'ailleurs, on entend beaucoup moins parler de Bendis.
Ouais. Peut-être à des projets de séries télé aussi.
Un lien de cause à effet. Axel Alonso n'aime peut-être pas Bendis.
Bon, ils se sont fightés la semaine dernière, il paraît que c'était gore.
Ouais, dans un resto, dans un McDo, je crois.
entre deux Big Mac et...
Et ça, les frites, elles ont volé.
Oh oui, hein. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler.
C'est l'épisode musical. Ça. Voilà.
C'est ridicule. On va continuer, peut-être.
Oui,
est-ce qu'il y a encore des news Marvel? Oui, également, en octobre, en fait, il y aura toute une série de couvertures hommage à d'anciennes couvertures.
Ça, c'est cool.
Donc pareil, hein, vous comprenez le principe. Par exemple, une couverture de X-Men parodiera la première couverture des Fantastic Four.
Mais ça sera en variante ou en régulier?
Très bonne question.
C'est de la variante.
Ouais, ouais.
Ça va encore être à 120 euros la variante.
Non, je crois pas. Non, mais il y a des chances que ce soit une sur deux, je ne sais pas. Enfin bon.
On verra bien.
On verra ça en octobre. On va passer à DC. Alors, news qui vient de tomber à la Comic-Con de San Diego, il va y avoir un crossover DC IDW entre la Légion des super-héros et Star Trek.
Ça, c'est carrément cool.
Ça, c'est là.
J'espère que ce sera John Byrne.
Ah non, alors attends. Ce sera Immini en 6, écrit par Chris Robertson, donc qu'on a pu voir récemment sur Superman, le fameux Superman qui marche.
Qu'on a vu surtout sur iZombie quand même.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
C'est un de ses meilleurs travaux, si possible.
Et au dessin, ce sera Jeffrey, tout court, voilà. Et Philippe Moy.
Ouais.
D'accord. Ouais, très bien.
Je suis déçu, j'aurais préféré que ce soit John Byrne.
Bah écoute, mais bon, visuellement comme ça a l'air assez marrant. Bon, on reste à voir ce que ça donne dans les faits, quoi.
Est-ce qu'il est précisé quelle continuité de Star Trek sera utilisée?
Ah bah alors là, tu m'en poses des questions. Non, je ne sais pas.
Voilà. Est-ce que c'est la nouvelle continuité façon J.J. Abrams ou est-ce que c'est la seule et unique continuité qui compte pour moi?
Alors ça veut dire
l'ancienne.
Surtout que je ne sais pas laquelle compte pour toi exactement.
Bah, celle avant J.J. Abrams.
Surtout que Star Trek, je dois dire que je ne m'y connais absolument pas.
Ouais, moi non plus.
Hormis le dernier film Star Trek.
Justement. Pas celle-là.
Oui, mais ça m'a pas laissé des souvenirs impérissables. Ça m'a un petit peu piqué les yeux. Bon, voilà. Parce que je l'ai regardé sur un grand écran et j'avais la tête collée à l'écran. Voilà. Donc, passons à autre chose. Cette semaine, on en a aussi appris plus sur le relaunch de Superman. Alors là, j'ai envie d'avoir vos réactions un petit peu, peut-être.
Je m'en fous.
D'accord. Non, mais le fait que Superman soit séparé de Loïs, par exemple, moi, personnellement, je trouve que c'est pas si mal. Parce que le couple était inexistant depuis des années.
Moi j'ai grandi avec Lois et Clark à la télé et du coup
oui, mais
ça me fait une petite boule au ventre quoi.
Terry Hatcher en plus s'est fait larguer par Superman puisqu'elle est dans Desperate Housewives.
Bah ouais.
C'est triste.
Mais bon, non, enfin c'est dommage, enfin moi je sais pas, ça me fait chier de voir ce couple, mais en même temps il n'était pas exploité depuis 3-4 ans, vraiment.
Non, puis bon voilà, on sait pas ce que ça va donner sur le long terme ce relaunch, donc.
Si c'est de nous l'effacer pour mieux nous le remettre dans 1 ou 2 ans, je sais pas si c'est la meilleure des solutions.
En même temps, chez DC, dès qu'il y a un truc qui fonctionne pas, hop, crisis. Voilà. Et sinon, Jonathan Carroll, ça vous inspire quoi?
Bah moi, je connais que Lewis. Donc.
Jonathan Carroll, qui est au fait le nouveau prétendant de Lois. et qui est un personnage qui sort de nulle part. Qui
travaille. Oui, il était inconnu avant. Bah, il avait jamais été dessiné, quoi.
Voilà. Donc bon, une manière de faire un petit peu qui rappelle One More Day, mais bon, enfin, en tout cas, moi.
Ouais, mais en même temps, One More Day, c'était tellement génial que DC s'est senti obligé de le refaire, quoi.
Voilà.
Est-ce qu'on n'oublions pas son éminente suite au mythe?
Voilà.
Mais là, oui, d'accord. Ça dépend comment tu l'écrivais, au fait. Je pensais au mythe de Superman.
Ah.
Enfin bref. Passons. Je crois
c'est
que c'est
qui ont mangé son costume, c'est pour ça qu'il en a un nouveau.
Et est-ce que vous aviez d'autres news d'ici?
Non, elles sont là-bas.
D'accord, très bien.
Non, mais c'est-à-dire que là, j'ai passé les deux derniers jours à monter le gros 58. Et donc forcément, je me suis un petit peu coupé de tout. Je ne suis absolument pas au courant de ce qui sort en news.
Ok, d'accord. Très bien. Moi aussi, j'ai passé les derniers jours à monter, mais je ne dirai pas quoi. Alors,
quoi? Tu remarqueras quoi? L'emploi du quoi et du qui?
Scott Lobdell n'est pas seulement chez DC, il est de retour aussi dans de l'indé. En fait, il va reprendre la série Aspen Homecoming, qui était une série qu'allait lancer Michael Turner avant sa disparition, malheureusement.
Et comment fait-il pour écrire tout ça?
Eh ben, je sais pas. C'est le bon retour. Il a peut-être acquis un pouvoir mutant, du coup.
Ah non, mais c'est-à-dire que le mec, on n'en entendait plus parler, et d'un seul coup, il écrit 4 titres mensuels, quoi.
Ouais. Alors, rien de dit. Si ce n'est pas une mini-série simplement, hein, plus d'infos aussi sont à venir. Mais voilà, Scott Lobdell, c'est vraiment un homme dont on entend parler au moins autant que Jason Aaron en ce moment. Autre chose, autre news indé, IDW a 3 nouvelles licences. Alors attention, accrochez-vous les amis, Popeye. Mm-hmm. Donc pas le mangeur d'épinards, l'autre. Mais si, bien sûr, Popeye le marin. The Crow.
Ah, donc The Crow qui revient donc chez IDW.
Oui, qui ressuscite.
Donc qui va faire de la concurrence à nos amis de French Crow.
Et Kiss.
Mais Kiss qui revient après un passage chez Image.
Ah, donc deux personnages à la tronche pas turlurée.
Mais c'est marrant parce que c'était deux licences, en tout cas pour Crow et Kiss, c'était deux licences qui ont été publiées chez Image dans les fin des années 90, début des années 2000.
Quoi d'autre Ah oui, alors il va y avoir un second volume de l'artiste édition. Donc au fait c'est, comme tu le disais Nono, comme tu me l'expliquais hors antenne, c'est à chaque fois des volumes consacrés à un artiste avec des croquis, des sketchs originaux, bien sûr reproduits, évidemment. Et celui-là portera sur Romita Senior. Tu avais une news, Nono, sur...
J'en ai même 3.
Oh !
Oh, attention.
Parfait. Alors, la première news, concerne Dark Tower. Donc, si vous avez écouté le podcast spécial Dark Tower, vous savez tout l'amour que je porte à cette série. Apparemment, Universal se serait retiré de la production, ce qui fait que le projet, pour l'instant, est juste au bord de la falaise, à 2 cm de tomber complètement à l'eau. Parce qu'il faut savoir que Javier Bardem avait déjà été...
Est-ce qu'il y a de l'eau en bas de la falaise?
Oui, bah oui, carrément.
D'accord.
Et Javier Bardem avait été recruté pour jouer le rôle principal du Pistolero, donc la grande épopée que Ron Howard voulait adapter en 3 films et 3 saisons. Pour l'instant, est en suspens. On parle de la Warner pour reprendre le projet, mais voilà, ça sera pas prévu pour tout de suite, du coup.
Tu te rends compte que c'est de ta faute, quand même, Nono. Puisque tu as dit que c'était un mauvais choix, qu'il fallait Clint Eastwood.
Oui, c'est vrai.
Et donc forcément, Universal s'est retiré du projet après t'avoir entendu.
Mais j'ai eu le patron d'Universal au téléphone et je lui ai dit « Si tu fais ça, je vais plus voir aucun de tes films. » Et il a dit « Bon, d'accord, je me retire. » Voilà.
Mais quand Nono parle, on l'écoute. Hein.
Ouais,
la preuve, les gens, vous êtes en train de l'écouter.
Et puis j'ai un chapeau.
En plus.
Et ça.
Ça, c'est la méga ça, classe.
C'est l'argument ultime.
Et d'ailleurs, on va encore l'écouter pendant 2 news.
Voilà, la deuxième news concerne le remake de Judge Dredd. La loi, c'est moi. Donc, finalement...
Il avait pas tout à fait cette voix, quand même.
Ah si, Stallone, c'était ça, c'était la loi, c'est moi.
Non, c'était la loi, c'est moi.
Ouais, voilà, aussi, ouais. Et donc, le film sortirait donc le 21 septembre 2012.
D'accord.
Donc, c'est pas pour demain.
Non. Donc 2012 va être une année quand même relativement riche en sortie ciné tirée d'un comic book.
Et à n'en pas douter d'ailleurs, Judge Dredd occupera le haut du classement, quoi.
Ouais, mais carrément. Mais je pense que The Avengers,
si on le retourne,
Spider-Man en face. Et la dernière news concerne Wolverine, donc le prochain film qui s'appelle The Wolverine. Apparemment, le nouvel ennemi de Wolverine serait le Silver Samurai, forcément vu que ça se passe au Japon. Et Hugh Jackman a précisé qu'au niveau du scénario, il s'était fortement inspiré du Wolverine de Frank Miller.
Ah oui,
La
oui, c'est une bonne idée en même
mini-série.
temps.
Ouais.
Hein.
Donc, qui se
La
passera
mini-série.
entièrement au Japon. Et apparemment, il tournerait le film avant octobre. Non, à partir du mois d'octobre de cette année, il va commencer le tournage, donc on peut espérer une sortie pour fin d'année prochaine. Donc encore fin 2012.
Je croyais que t'allais dire qu'ils allaient tourner le film, je sais pas, en République tchèque. Le truc qui a rien à voir avec le Japon.
Dans les îles
Avec le
d'Hawaï.
Pacha.
Ils vont
Non mais
tourner
je
le
suis
film dans
déçu,
les îles
hein.
d'Hawaï.
Je suis déçu, moi je m'attendais à MODOK comme ennemi, donc j'irai pas le voir.
J'imagine la fausse gueule.
Ouais.
Déjà qu'en dessin, il a une fausse gueule.
Donc voilà, c'était mes trois petites news.
Oh, bon, c'était pas terrible, dis donc, hein. La
Je
prochaine
ferai
fois.
mieux la prochaine fois.
Ouais, quand même. N'est pas
Bien, on
Sam
va
qui veut,
passer.
hein. Sam, dont vous pouvez suivre les news par écrit sur le site, bien sûr.
Voilà.
On va maintenant passer aux reviews et on va donc entamer avec la triple review de la semaine, puisque nous sommes trois. Et c'est donc le Daredevil volume 3 numéro 1, Mark Waid au scénario, Paolo Rivera au dessin, Joe Rivera à l'ancrage.
Et Marcos Martin aussi.
Pour le backup, mais on en parlera à la fin. Alors, ce Daredevil, vous a-t-il convaincu, ce nouveau relaunch de la série?
Qui commence?
Alors, bah je peux. Allez, je me lance, allez, soyons fous.
Vas-y.
Je dois dire que je suis partagé. J'ai bien aimé, mais il faut quand même se dire que ça n'a strictement plus rien à voir avec ce qu'était Daredevil avant. Enfin, ces dernières années. Donc c'est vraiment pour un tout autre public, je dirais.
Voilà. Ouais.
Ça fait vraiment penser à du comics super old school. D'ailleurs, c'est un Daredevil super déconneur. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympathique. Mais totalement différent de ce que j'avais l'habitude de lire sur le personnage.
Ouais, en fait, ils ont gardé tout ce qui est chronologie du personnage, etc. Ils ont pas enlevé tout ce qui avait été fait par Deagle ces dernières années. Mais par contre, le ton est radicalement différent de ce que Deagle pouvait faire sur le titre.
Ouais, là je suis pas forcément d'accord avec toi, non, mais on va en parler tout à l'heure. Je voulais avoir vos avis déjà un petit peu. On va parler du pitch,
Mais
grosso modo.
pourquoi t'es pas d'accord avec Nono alors qu'on a le même, enfin j'ai le même avis que lui a priori.
Non, par rapport au fait qu'on ait gardé toute la
Ah
chronologie.
oui. Ah
Voilà.
bah concrètement on peut le dire. Enfin moi j'ai l'impression que j'ai lu une ligne simplement dans le comics qui référençait ce qui s'était passé avant et puis c'est tout quoi.
Oui, non, mais je veux dire dans la mythologie. Je parle pas des événements récents, style
Ah oui.
Shadowlands, etc. Je parle vraiment dans
Oui.
la mythologie, le fait que son identité ait déjà été révélée, etc.
Ah oui, d'accord, oui. Ok. Ouais, parce que point de mot sur Shadowlands
Non.
dans tout le comic.
On a
Et
l'impression
c'est.
qu'il est jamais parti.
Et d'ailleurs, pour moi, ça, c'est le plus gros défaut de ce numéro-là. Même si on a une fin qui nous laisse supposer que va y avoir quelques règlements de compte, sûrement par rapport à ça, enfin, en tout cas, je l'espère.
Oui, c'est l'espoir que j'ai également quand j'ai lu la dernière page.
Franchement, c'est vraiment le point qui m'a déçu. On va faire le pitch tout de suite. Grosso modo, Daredevil est de retour à New York. Il va s'inviter à un mariage entre deux familles mafieuses pour lequel il a entendu des rumeurs comme quoi quelqu'un essaierait de provoquer un désastre pendant le mariage. Et
Il aime
Daredevil
pas
va
les mariages désastreux. Il est charitable.
Et donc il va s'opposer à The Spot. Donc un ennemi de Spider-Man qui vient trouver refuge dans les pêches de Daredevil.
Ouais, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, ce spot.
Ouais.
Il
Mais
aime pas que spot le chien, d'ailleurs.
je sais pas, c'était bizarre de le voir se battre contre The Spot.
Oui, bah oui, non, mais c'était même assez comique. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, dans les années 60, à ses débuts, il affrontait quand même des ennemis assez étranges, assez ridicules comme ça. C'était assez kitsch, et là, on retrouve vraiment cette impression kitschissime.
Par contre, il le défonce facile, hein.
Ouais.
Spider-Man il en chie, mais alors lui, ça va, en quelques pages c'est réglé.
Bah ouais, parce que son sens radar lui permet de contrer, de
Plus
contrer
facilement.
facilement, quoi.
Ouais, puis il a pas peur.
Alors que Spider-Man, c'est une petite flippette, tout le monde le sait.
Ouais.
Il va se cacher.
Bref, il fait la une des journaux, et là donc personne ne s'inquiète qu'il y a eu Shadowland, bizarrement.
Oui.
Moi c'est franchement ça me surprend, quoi.
Mais oui, puis même, je veux dire, il est parti de New York pendant un certain temps. Il revient, il est re-avocat à la cour, comme ça, tranquillement, tranquillement, quoi. Et
Et Foggy a retrouvé son droit d'exercer, apparemment. Lui qui l'avait perdu.
oui, tout ça,
Mais
c'est éludé, quoi. C'est passé sous silence, à toute vitesse, quoi. Voilà, on saute une étape.
enfin, il va exercer pas très longtemps, puisque la plupart des avocats ont maintenant un argument contre lui, cette identité révélée. Et donc, ça pose des problèmes. Et la plupart des juges vont arrêter les procès en cours. Et conseiller au
cours de
client de
cassation, en
trouver
fait.
d'autres avocats. Donc voilà. Donc il est avocat, mais il se retrouve un peu sans client. C'est un petit problème.
C'était l'homme sans peur, maintenant c'est l'avocat sans client. Ce sera le nouveau slogan d'ailleurs sur les comics. Daredevil, l'avocat sans client.
On retrouve un nouveau personnage qui va faire son entrée, une certaine Kirsten McDuffie, qui est la nouvelle assistante d'IA.
On dirait le nom d'une
Et...
actrice.
Ouais, mais d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué ces petits hommages que fait Mark Waid à toutes les personnes disparues. On a donc justement le nom de McDuffie. Et si vous regardez bien la photo de la une que fait Daredevil, la photo a été prise par un certain Bill
Jim
Everett.
Everett Wood.
Voilà.
Ah oui, Bill Everett.
Jim Collan, Bill Everett et Wallace Wood.
Ah oui, d'accord.
Donc il y a des petits hommages comme ça qui sont faits par Mark Waid. Ça sert pas à grand chose, c'est sûr, mais je trouve ça sympa. Donc cette assistante d'IA lui dit grosso modo qu'il va en chier pour exercer et que le client qui te défendait, il y a peut-être quelque chose d'autre qui se cache dessous. Donc elle va jouer un petit peu avec son identité secrète tout en faisant semblant de le croire qu'il n'est pas Daredevil. Alors peut-être une future romance pour lui.
Ouais, bah moi
Oh,
ça m'a fait
du coup.
penser au couple du mentaliste.
Ah bon?
J'ai jamais accroché à cette série. Donc...
Non, non, mais la tronche des personnages, la tronche de la nana, j'ai l'impression de voir la nana du mentaliste dessinée
Ah
par
oui, pas
Paulo
faux.
Rivera.
Ah oui, j'ai pas fait le rapprochement.
Et Matt, avec ses sens radar et tout, ça me faisait un petit peu penser à une scène du mentaliste. Genre, ouais, je sais que vous avez fait ci, vous avez fait ça, enfin bon, bref.
Non,
Il va
ouais, mais
pas.
voilà, en plus elle lui lance un stylo à la tronche, il le rattrape pas, il fait exprès, etc. C'est poussif pour moi.
Oh, moi j'ai trouvé ça sympa quand même.
Ouais. Bah, on verra ce que va donner ce nouveau personnage, s'il va rester déjà. Bon, je sais pas, ça peut être une nouvelle piste, un nouveau personnage à exploiter, puisque bah, Dakota North a disparu. On sait pas où elle est, elle aussi.
Ouais, c'est pareil, non mais il y a plein de choses comme ça, on a l'impression qu'on a loupé 36 000 épisodes, c'est un petit peu gênant.
Bah, en gros, Daredevil va partir enquêter, et puis va rencontrer quelqu'un en chemin qui va s'opposer à lui. Et on aura une idée de qui c'est sur la dernière page, donc on va pas révéler.
Oh ouais, mais alors franchement c'est un cliffhanger tout pourri. Hein.
C'est un cliffhanger tout pourri, c'est sûr,
Puis en
mais...
plus on nous l'a annoncé qui on verra dans le numéro 2, donc...
Ah oui?
Ouais, mais on va quand même pas le révéler. Oui, ça a été annoncé déjà
Ah
dans
ouais,
l'émission.
j'ai pas vu passer.
Moi je sens le quiproquo comme d'habitude quoi, classique.
Bah, moi, pour moi, c'est une explication sur Shadowlands.
Oh non, moi pour moi c'est simplement le quiproquo classique, genre haha, excuse-moi, je vérifie que c'était bien toi parce que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu.
Si
Mais
ce
c'est toi qui
personnage-là a
fais...
cette voix-là, je
Ouais.
te jure que je me suicide. Le ton est plus léger dans l'ensemble. Je vous avouerai que moi, ça me plaît. Parce que ça fait maintenant plus de 10 ans que Daredevil est enfermé dans un cycle noir, sombre, et je descends plus bas, et ah bah tiens, en fait, je peux descendre encore plus bas. Et puis, quand tu crois qu'il atteint le plus bas, bah non, il peut descendre encore plus bas. Et
Ouais,
j'en
mais
ai,
justement,
franchement.
c'était devenu la marque de fabrique de Daredevil, et on savait que c'était une série, voilà, pour public averti, très sombre, etc. Et moi, j'aimais bien ça.
Ouais, moi aussi, ouais. Ça va me manquer, et je suis pas sûr d'accrocher longtemps à cette nouvelle série.
Plus de 10 ans d'ambiance noire, je pense qu'il était temps de changer un peu pour redonner un second souffle. Je dis pas que le noir va pas me manquer, mais là je suis content d'avoir quelque chose de plus léger.
Ouais, mais noir,
Ah
c'est
non,
noir,
mais.
il n'y a plus d'espoir.
Non, tu l'as déjà fait la dernière fois.
Oui, mais c'est pas grave, c'est la musicale aujourd'hui.
Mais ouais, ok, mais de là à arriver dans un style comme ça, c'est même plus du grand écart là,
C'est le jour et la
c'est du
nuit, quoi.
soleil.
C'est vraiment le jour et la nuit.
Et qu'est-ce que vous avez pensé du Sens Radar, par
Ça,
version
j'ai
Paolo
trouvé bien.
Rivera?
Comme sur la
Il y a un côté
couverture.
très Romita Junior, je trouve, dans la façon de le faire.
Bon, ouais, surtout sur les... En fait, j'ai bien aimé la scène d'action, la première. Bah parce qu'après, de toute façon, il se passe pas grand-chose, hein, faut dire franchement. Mais j'ai bien aimé le début, la manière dont il avait de décomposer l'action.
Ouais.
La couverture dont tu parlais, Nono, est magnifique.
Oui. Avec
Mais
les
j'ai pas.
représentations en bruit de tout ce qui existe autour de Daredevil, c'est vraiment sympa. Et d'ailleurs, vous avez remarqué sur la couverture, c'est pas Daredevil, The Man Without Fear. C'est Here Comes Daredevil.
Exactement comme la couverture du premier numéro, si mes souvenirs sont bons.
Si tu le dis, je te crois.
Moi, ça me faisait penser à Here Comes Spider-Man.
Il y a un petit backup par Marcos Martin, et toujours écrit par Mark Waid, où bah, en gros, Daredevil annonce à Foggy qu'il va arrêter de plonger dans son passé noir et justement essayer de prendre la vie du meilleur côté.
Voilà, ça fait bien les choses, ce petit backup.
Alors moi, la double page de ce backup m'a fait énormément penser à du Michel Gondry.
Oulala, tu vas loin là.
quand il a fait un clip, alors on est dans l'émission musicale, donc c'est le clip de Kylie Minogue, où elle se dédouble comme ça au fur et à mesure. C'est réalisé, la musique on adhère pas, mais au niveau réalisation et idée de mise en scène, c'est juste magnifique. Et cette double page, c'est exactement, quasiment, le clip de Kylie Minogue, réalisé par Michel Gondry.
D'accord.
Marcos Martin est coutumier de ce fait-là, hein, quand on regarde, par exemple, ce qu'il avait fait, dans le backup qu'il avait fait pendant plusieurs numéros de Amazing Spider-Man, qu'on a pu voir dans les pages de Comic Box en français. On avait toujours cette, l'histoire sur une double page avec cette séquence où tu pouvais suivre l'action, où tu voyais le personnage plusieurs fois, mais sur une seule et même planche, sans case, ouais, sans rien.
Mais de toute façon, Marcos Martin, il est pas avec Kylie Minogue?
Hein?
Non, rien.
Hein? Oh là là. Moi, je sais pas, moi, j'aime beaucoup sa façon de décomposer l'action, et il y a vraiment une certaine logique à suivre dans l'image, et c'est vraiment super bien fait.
Ouais, ouais. Il arrive à décomposer, au fait, le sens radar de Matt d'une manière inédite, d'ailleurs, hein, puisque jamais j'avais vu un truc pareil, quoi, sur Daredevil.
Ouais. Je suis sûr que tu es resté sur cette image du cul, hein, comme la dernière fois.
Mais, au fait, c'est lui, d'ailleurs, qui le dit, hein. Il suit une nana, ah non, lui, il suit une nana qui s'est mis du shampoing, qui sent bon.
Oui. Parce qu'il y avait cette image à l'époque, on n'avait pas de parole quand on avait vu les pages preview.
Donc on était obligé d'interpréter, et effectivement, il y avait le focus sur un cul. Donc je me disais, je sais pas, peut-être qu'il l'entend péter. Ça nous avait laissé interrogatifs.
Non, en fait, c'est simplement il repère la courbe de son postérieur.
Ouais.
Il a envie de se la faire, on va le dire, franchement.
Foggy a envie de se la faire.
Mais d'ailleurs, vous avez pas trouvé que Matt Murdock, il est devenu super chaud et super prétentieux, casse-cou, déconneur.
Pour moi, ça redevient le Daredevil du début. Il fait vraiment un hommage au début de la série.
Par contre, au niveau dessin, il a quand même une sacrée tronche de Ken, quoi.
J'ai cru que t'as dit une tronche de Ken.
Mais il y a certains persos, hein, sous les traits de Marcos Martin, qui ont effectivement une tronche de cake.
Et là, on dirait Ken, et j'ai cherché Barbie pendant un moment.
Bah, c'est celle avec ses cheveux, là, qui repère, là.
Ouais.
Ouais. Celle sur le scooter. Bien, bah, dans l'ensemble, un bail, un check-it pour vous?
Moi, je dirais un bail, ouais, pour ceux qui aiment c'est justement cette ambiance, le Daredevil des années 60. Un check-it pour ceux qui aimaient Daredevil avant, ces dernières années, voilà, qu'ils essayent cette nouvelle version, voir s'ils accrochent. Et sinon, bah, quoi. C'est... Je vais pas dire impasse, mais bon. Je sais pas si prochainement je vais continuer longtemps, quoi.
Moi, ça sera un check-it. J'attends de voir le numéro 2 si on a un peu plus d'explications par rapport à l'après Shadowland. Si on n'a pas plus d'explications, la série sera un pass.
D'accord. Eh ben, je vais être le seul à dire que c'est un bail. Tout simplement pour la raison que j'expliquais tout à l'heure. J'en avais un peu marre de ce noir et de ce j'emmène Daredevil encore plus bas, encore plus bas. Il y a un moment, je pense qu'il faut le faire remonter aussi. Quitte à le faire retomber plus tard, mais je me fais pas trop d'illusions sur le talent de Mark Waid. Le mec est capable de nous scénariser Irredeemable. Voilà. Je pense qu'il est capable de gérer des personnages qui sont dans la merde. Et un petit coup de frais pour Daredevil, ça fait du bien. Si vous voulez un avis supplémentaire, eh ben, je vous encourage à aller voir l'article de Sam, où il donne sa critique sur Daredevil.
Il a aimé? Non. Très bien.
Les mêmes avis que vous, à peu près.
D'accord.
On va passer maintenant au review solo, et je vais commencer donc avec un truc que j'ai gardé secret, hein, que vous ne savez pas ce que c'est. Donc je vais vous annoncer tout de suite la couleur, c'est du Blue Water.
Oh non, t'as fait... Attends, Adam West.
Oui, voilà, The Misadventures of Adam West.
Il est sorti cette semaine.
Il est sorti cette semaine.
Oh là là.
Ah, c'est un truc que j'avais vu passer dans le Free Comic Book Day, ils avaient fait un numéro avec ça et autre chose. Et franchement, je m'étais dit, mais c'est quoi ce gros délire? Donc je suis allé voir... Et bon, voilà, je vais vous dire ce que j'en pense. C'est scénarisé par Reed Lackey sur un concept d'Adam West et du directeur de publication de chez Blue Water, dont j'oubliais le nom, Darren G. Davis, je crois, mais je suis pas certain. Et au dessin, on a Russell Dauterman.
Attends, Adam West, c'est le mec qui jouait Batman?
Oui, oui, oui.
D'accord, ok.
Donc, ce comic se base sur le personnage d'Adam West, sur lui-même en fait, il joue son propre rôle dans l'histoire.
Est-ce que c'est un biopic ou pas du tout?
Pas du tout, non, c'est vraiment une histoire de comique.
D'accord.
Enfin,
de comique, genre rigolo, quoi.
C'est rigolo en plus, quoi. C'est léger, disons. C'est un ton assez léger. Donc Adam West dans son propre rôle. Grosso modo, il est un peu dans la merde, puisqu'il ne trouve pas de rôle qui lui fasse vraiment plaisir. Il trouve toujours des problèmes sur les scénarios qu'on lui propose et son agent en a ras-le-bol. Et s'apprête à le lâcher. En gros, il a trois scénarios possibles. Soit il en choisit un, soit son agent le dégage. En fait, le problème d'Adam West, c'est que il est resté bloqué dans les années 60 au niveau de la mentalité et il ne supporte pas que les héros, qui sont vraiment les gentils des histoires, bah, soit tabassent des innocents pour avoir des réponses, soit tuent même de façon comique dans le film. Enfin voilà, ça il n'aime pas. Il veut vraiment la moralité des années 60. Le gentil est très 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 gentil et les méchants bah, sont des méchants et se font capturer par les gentils à la fin.
D'accord. Enfin, il tabassait quand même pas mal dans Batman et Robin.
Oui, mais
Avec
pas des
pif, paf,
innocents.
pouf, oui. Ah oui, bien sûr.
Pas des innocents, voilà. Et donc ça le dérange. Et il galère un petit peu en rentrant chez lui après cette visite avec son agent. Il ouvre un paquet que lui avait envoyé un fan et dans lequel il y avait une amulette. En touchant cette amulette, il se retrouve, alors qu'il est en plein milieu des bouchons dans Los Angeles, il se trouve totalement rajeuni à conduire à toute allure sur une route de montagne et manque d'éviter l'accident à la dernière seconde. Tout ça, c'est ce qu'on avait dans le Free Comic Book Day. Jusque-là, normalement, si vous avez lu, rien de spoilant. On va en apprendre un petit peu plus, puisque bah, là, cette fois-ci, il y a le comic complet. Le petit défaut, quand même, c'est qu'on avait à peu près un tiers du comic qui était déjà publié d'avance. C'est un petit problème quand même parce qu'on a un peu l'impression de relire le même truc. Enfin, c'est même pas qu'un peu. Ça, c'est chiant. Il se retrouve en fait en plein milieu d'un des scénarios qu'on lui avait proposé. Et c'est un film à la James Bond où il doit empêcher l'assassinat d'un sénateur. Ça se barre totalement en délire et à la fin de l'épisode, il se retrouve capturé par ce gars qui sait qui il est, car c'est le gars qui lui a envoyé l'amulette.
D'accord, mais ça semble pas mal tout ça, dis donc, pour du
Mais
Blue Water.
non, mais c'est franchement pas si mal que ça. C'est un ton très léger. C'est franchement c'est sympa. Bon, les dessins c'est pas sans sas, honnêtement. C'est tout juste passable. Mais voilà, ça se laisse lire. Moi, je me suis bien marré. J'ai passé un bon petit moment. C'est vraiment pas un bail. C'est juste un check-it, quoi. Un check-it si vraiment vous avez un peu d'argent et que vous avez envie de tester quelque chose.
Que vous aurez de l'argent à foutre
Ben voilà. Enfin, je veux dire,
du Blue
si vous n'avez
Water.
pas grande sortie à acheter cette semaine, des choses que vous suivez régulièrement. Bah voilà, faites un essai. De toute façon, c'est une série qui va se continuer. Je ne sais pas en combien. Je crois pas que ce soit précisé. En tout cas, j'ai pas vu que c'était une mini-série. Après, on reste à voir combien de numéros va y avoir. Mais voilà, c'est sympathique.
Mais ils aiment bien ça, Blue Water, faire des biopics. Il y a pas très longtemps, j'avais lu le biopic sur Stephen King.
Oui, mais là, c'est pas un biopic,
Mais là,
justement.
c'est pas du tout un biopic. Là,
Ouais, non, mais
c'est vraiment un
c'est pas ça que
comique,
je voulais dire.
quoi.
En fait, je voulais dire, ils aiment bien
Les personnages
les
réels.
personnages réels. Il y avait eu
Et en
Justin
effet,
Bieber.
oui, voilà, ce
Ouais,
magnifique Robert Reynolds,
mémorable,
en plus.
mémorable, Justin Bieber.
Oui, puis il y a toute la série des femmes d'influence, avec les trucs sur Hillary Clinton, sur Sarah Palin, ils en avaient fait un sur Carla Bruni aussi.
Fondamentalement, j'allais dire sur les femmes de Fontaine. Je sais pas pourquoi.
bien sûr, mais ça c'est pas la collection Blue Water, c'est autre chose. C'est
Mais
pas
c'est
Pink Water.
justement Blue Water, ouais.
Non mais Blue Water, ça m'a toujours fait penser à ce produit bleu donc que tu mets dans les toilettes et
Ben
justement,
oui.
j'avais envie de dire Blue Water, c'est vraiment les comics qui partent aux chiottes quoi.
Ben oui, voilà, Blue Water Closet. C'est très mauvais. Hein.
Bon bah tu vas
Bon
reprendre.
voilà, un bon petit check-it. J'en profitais pour faire un petit express. J'ai aussi lu le Flashpoint Dead Man and the Flying Graysons numéro 2, qui est sorti cette semaine, scénarisé par J.T. Krull et dessiné par Fabrizio Fiorentino. C'est pas le même dessinateur que dans le premier. C'est un peu moins bien. Moi, j'aimais bien le style du premier épisode. Je me rappelle absolument plus d'ailleurs le nom du dessinateur, mais c'est pas grave. Ça continue plutôt sympathique. Les membres du cirque où on avait donc Dick Grayson et sa famille, on avait aussi Deadman, on avait aussi des gens comme Ragdoll par exemple ou Dr. Fate dans ce cirque-là. Donc c'était vraiment un cirque avec plein de monde assez connu. Se font attaquer par les Amazones qui veulent récupérer justement le casque de Naboo, donc le casque de Dr. Fate, bah, pour s'en servir comme arme face aux Atlantes. Va y avoir des pertes. Les survivants vont devoir se cacher de ces Amazones. Comment ça va se terminer, ça je sais pas. En tout cas, c'était quelque chose qui m'avait été conseillé par King Ed qu'on avait pu rencontrer à la Comic-Con. C'était un tête de tie-in que j'ai pas eu le temps de dire. Il m'avait dit essaye-le, tu verras, c'est vachement bien. Effectivement, moi j'ai vraiment aimé le premier, j'ai lu le deuxième, c'est toujours sympathique.
Je croyais que t'allais dire le deuxième et t'as chié. Merci
Non,
King Ed.
non, c'est vraiment sympa. Moi j'aime bien. En plus, j'aime beaucoup déjà le style de la cover, qui a un côté hein, très années 60, en même temps poster d'affiches de cirque, etc. Qui colle tout à fait dans l'esprit. J.T. Krull s'en sort pas mal. Voilà, bon, c'est peut-être pas un bail, mais c'est un bon check-it en tout cas.
Ok, donc je vais enchaîner. Donc moi j'ai en review solo, j'ai fait Lock and Key, Clockworks, numéro 1 sur 6. Donc cinquième mini-série pour la série Lock and Key. Pour vous faire un rapide résumé. Qu'est-ce qu'il y a?
Rien, vas-y, continue.
Je t'en t'entends ricaner dans ton coin. Donc, pour faire un rapide résumé des quatre premières mini-séries, en fait, Locke & Key, ça raconte l'histoire d'une famille qui, après un drame familial, se retrouve à vivre dans la maison historique familiale.
Ça fait beaucoup.
Ouais,
ça fait beaucoup.
Ouais. Donc après, je vais la refaire.
Non, c'était très bien. Vas-y, enchaîne.
Donc elle se retrouve à vivre dans la maison familiale, qui n'est pas une maison ordinaire en fait, qui est une maison avec des portes, ça déjà c'est pas commun, et avec des clés surtout. Chaque porte a une clé bien à elle, et chaque clé permet de faire quelque chose.
Porte.
D'ouvrir une porte spéciale et derrière d'avoir un pouvoir spécial, donc soit de voyager dans le monde des morts, soit de se transformer en animal, soit de devenir géant, voilà. Et ça raconte en fait l'histoire de principalement focalisée sur les trois enfants de la famille qui apprennent à découvrir les secrets de cette maison. Donc on avait laissé les enfants en bien mauvaise posture à la fin de la quatrième mini-série. Et là, oh grande surprise, pour ce premier épisode, on change radicalement de ton et d'époque. C'est-à-dire qu'on se retrouve à l'époque victorienne, en 1775, là où tout a commencé en fait pour la maison. Donc on voit les ancêtres.
Les origines de la maison.
Voilà, les ancêtres de la famille qui sont en mauvaise posture avec les gardes anglais qui les accusent d'avoir trahi, etc.
C'est en pleine guerre civile, de toute façon.
Oui, tout à fait. Les parents sont pendus pour trahison, les enfants se retrouvent tout seuls, la maison est réquisitionnée par l'armée. Et en fait, on apprend que cette famille abritait un gang de renégats pirates, dans les sous-sols de la maison, qui sont pas très gentils.
C'est des pirates en même temps.
Voilà. Ils sont pas vraiment décrits comme pirates, mais plus comme un gang de rebelles par rapport à l'autorité en place. Et ces gens-là ont découvert une autre porte, donc apparemment une porte qui est à l'origine de tout ce qui est tout ce qui va arriver dans la maison par la suite, une porte qui mène directement sur les enfers.
D'accord.
Et voilà, je vais pas rentrer plus dans le détail parce qu'il y a énormément de dialogues. Ça, comme toute la série en fait, on met longtemps à lire un épisode, ça se lit pas en 5 minutes. Comme du je veux pas dénigrer.
Comme du Ben 10.
Voilà, comme non, du Ben 10.
Je l'ai dit à ta place.
D'accord, merci. Et voilà, il y a énormément de dialogues et ça.
T'as mis 20 heures d'ailleurs à le lire,
oui,
faut le préciser.
Oui, ben j'ai commencé la semaine dernière. et donc en fait le jeune garçon de la famille va apprendre à faire des cadenas pour sceller cette porte qui mène aux enfers. Et c'est tout ce qu'on sait pour l'instant dans cet épisode. En fait, si on traverse cette porte, ou même si on se trouve à proximité de cette porte, on est pris d'une folie sanguinaire et on tue tout ce qui est autour.
D'accord.
C'est pas très pratique. Et donc, ce jeune garçon va forger la première clé et le premier cadenas de la maison.
C'est toujours scénarisé par Joe Hill ?
Oui, j'ai pas dit les crédits, autant pour moi. Oui, c'est scénarisé par Joe Hill et dessiné par Gabriel Rodriguez.
La même équipe, en fait.
La même équipe depuis le début.
Mais je sais pourquoi tu es fan de cette série, Nono.
Oui, parce que c'est le fils de Stephen King, Joe Hill.
Voilà, c'est ouais. Pour ça.
Mais complètement. Et j'avoue qu'à la base, j'y suis allé pour ça, pour voir ce que le gamin faisait. Et j'ai tout lu il y a pas très longtemps en fait. J'ai fini au début de l'été de lire la fin de la quatrième mini-série. J'ai tout avalé d'un coup et c'est vraiment très très bon comme mini-série. Franchement, allez-y.
Non, je rigole parce que j'ai
oui,
eu
j'ai
une
tout
image
avalé et c'est très bon. Ouais.
Voilà. Ouais, excuse-moi.
Non mais
à la fin en fait on se rend compte que c'est les gamins de la maison actuelle, on va dire, de l'époque contemporaine, qui revivent les événements du passé. Donc certainement à travers une nouvelle porte qu'ils ont découvert entre temps. Et ils apprennent de ce fait-là les origines de la maison.
Mais voilà. C'est vrai qu'on retrouve un petit peu l'atmosphère de Stephen King avec le côté très famille et puis cette espèce de...
Oui, et même dans la trame scénaristique, la manière...
De dépression, quoi. D'ambiance
voilà,
assez...
Ambiance très
assez lourde.
Et qui il se passe pas grand chose au début, comme là dans ce premier épisode, il se passe vraiment pas grand chose, mais dans toutes les mini c'est pareil, et pour arriver à un final à chaque fois bien barré, et là Ma seule petite déception, c'est qu'on sait pas ce qui se passe directement après la fin de la quatrième mini-série, parce que c'était quand même une fin très comment dire, très bizarre. La quatrième mini-série s'appelait Case to the Kingdom. Elle est en 6 également. Et là, c'est ma seule petite déception par rapport à cet épisode, c'est que on part sur autre chose. Donc, à mon avis, à partir du deuxième, on va retourner dans l'époque contemporaine et on va en apprendre plus. Mais sinon, c'est si vous avez aimé les premières mini-séries, allez-y, c'est un bail absolu. Si vous n'avez pas lu les quatre premières mini-séries, ne commencez pas par celle-là, parce que honnêtement, vous n'allez pas comprendre grand-chose.
D'accord, mais c'est la maison des secrets, quoi. En fait, le tout, c'est de ne pas trouver la porte derrière laquelle est Castaldi.
Voilà.
J'aime beaucoup la comparaison.
Faut la laisser bien fermer, celle-là.
En grand lien avec l'actualité.
Complètement.
Toujours en lien avec l'actualité.
Mais donc, un conseil, lisez les quatre premières. C'est vraiment très bon. Et ensuite, enchaînez sur celle-là. On trouve les TPB à pas très cher. Il me semble qu'on les trouve, les TPB à une dizaine de dollars. Ça a commencé d'ailleurs à sortir en VF chez, je sais plus chez qui.
C'est chez Milady, je crois.
Ouais, oui, tout à fait. Vous en aviez parlé dans un Comic City.
Le deuxième est sorti le mois dernier.
Ouais, au mois de juin.
Si mes souvenirs sont.
Ouais. Donc, allez-y. Franchement, c'est une très bonne mini-série. C'est une très bonne série entière. Et, donc, un bail ou un check-it. Ou un pass, pardon.
De toute façon, c'est forcément l'un des trois. Donc,
non, un bail. Si vous avez lu ce qui précède, allez-y. Sinon, ne l'achetez pas, vous n'allez pas comprendre.
Bien. Avais-tu lu autre chose, Nono?
Oui. Alors, j'ai lu le Marvel Universe versus Wolverine numéro 2. Donc, j'avais traité le premier en Unspoken le mois dernier. Au scénario, nous avons le même scénariste que dans la première mini-série, à savoir Jonathan Maberry. Et au dessin, nous avons Lawrence Campbell, qui est donc un garçon. J'ai été étonné de l'apprendre. Et,
Tu parles pas Lawrence Darby?
Non.
Et Lawrence Fishburne, non?
Oui, aussi, oui. Mais je sais pas, pour moi, Lawrence Campbell, c'était une nana. Et Lee Loodridge, à l'ancrage. Ça continue dans la même veine. On est donc avant ce qui se passe dans le Marvel Universe versus Punisher, que vous aviez traité l'année dernière.
Ah oui, qui était pas mal.
Oui, qui était très sympa. Et là, en fait, ça se passe avant. C'est-à-dire que c'est pendant la contagion. Donc, c'est Wolverine, en fait, qui se retrouve à faire tout le sale boulot. À la fin du premier épisode, il y avait une image assez traumatisante. Maintenant, je peux le révéler, parce que on est au numéro 2, donc il n'y a plus de spoil sur le premier. Ou à la fin du numéro 1, donc, il tuait tous les X-Men. Et la dernière image était assez choquante pour les fans des X-Men.
Logan, ça. Ah oui, carrément, oui.
Ouais.
Il se fout pas la tête sous un train?
Non. En fait, il tue les X-Men parce qu'il se rend compte qu'ils sont tous infectés et qu'il a pas d'autre choix que de les tuer. Et donc là, en fait, dans cet épisode numéro 2, il va continuer à chercher un remède avec l'aide de Reed Richards, Hank Pym et The Beast. Et ça va plutôt mal se passer, forcément. Donc c'est une très bonne suite. Moi, ce qui me dérange, j'ai toujours les mêmes craintes que dans ma review, mon Unspoken du premier, c'est-à-dire que on sait comment ça va se terminer, indubitablement, parce que on connaît la suite avec Marvel Universe versus Publisher. Donc je sais pas si on va pouvoir apprendre des choses nouvelles, en fait.
D'accord.
Donc c'est un check-it.
Moi, je l'avais même loupé. Moi, je l'ai pas vu passer. Donc d'accord.
Très bien. Benny, à toi.
Oui, je passe à ma review solo. War of the Green Lanterns Aftermath, donc numéro 1 sur 2. Au scénario, Tony Bedard. Au dessin, Miguel Sepulveda. Alors, en fait, on le sait tous maintenant, hein, Hal Jordan n'est plus Green Lantern. Ah, il a perdu son anneau. Et d'ailleurs, ça commence là-dessus. On revoit cette scène finale de War of the Green Lanterns. Hal Jordan est désespéré. Il se dit, mais comment je vais faire maintenant sans anneau? Et, grosse surprise, le numéro en question ne porte pas du tout sur ce que devient Hal Jordan, mais sur toutes les réactions autour de cet événement, et surtout il y a une espèce de montée en puissance des Green Lanterns contre les gardiens, c'est-à-dire qu'ils en ont marre des gardiens et des décisions bancales qu'ils ont pu prendre récemment.
Non, mais c'est des gros bâtards.
Oui.
Je t'ai sauvé. Ouais, bah tiens, dégage du corps.
Exactement. Exactement. Et en plus de ça, il y a aussi le fait que Sinestro redevienne un Green Lantern. Donc là, la coupe est pleine. Alors, il y a une espèce de coalition entre certains lanternes contre les gardiens qui commence à se mettre en place. des espèces d'alliances qui sont formées. C'est assez intéressant à suivre parce qu'il se passe quand même pas mal de choses. On voit beaucoup de réactions de différents personnages qui font partie de la saga Green Lantern. Mais le grand absent quand même, c'est quand même Hal Jordan qu'on voit juste sur les premières pages. Et au fait, on ne suit pas du tout ce qui lui arrive. Donc c'est un petit peu une déception parce que moi je m'attendais à ce qu'on nous dise, bon bah voilà, que devient Hal Jordan quoi, maintenant qu'il a perdu son anneau.
Ça, on va sûrement le savoir dans le Green Lantern numéro 1, relaunché en septembre.
Ouais, probablement, ouais. Mais dans tous les cas, le numéro est intéressant.
Donc, cette coalition dont tu parles face aux gardiens, du coup, c'est peut-être en prévision de la série New Guardians,
Ouais, aussi peut-être.
Ah,
Et puis,
qui sera écrite par Tony Bedard.
peut-être, peut-être. Et il y a aussi des tensions intéressantes, notamment entre John Stewart et Kyle Rayner. Là, vraiment, c'est sur le point d'exploser, quoi. Donc.
John Stewart sert à quelque chose.
Ouais, ben à mon avis,
Oh
il va
putain.
devenir un gros méchant en pas longtemps. Non, enfin j'en sais rien, c'est juste une spéculation de ma part, c'est pas le cas là pour le moment, évidemment. Mais voilà, mais c'est intéressant, franchement j'ai pris du plaisir à lire ce comics. Donc pour moi c'est quand même un bail, même si bah, je m'attendais quand même à ce qu'on parle un peu plus d'Hal Jordan.
Sepúlveda sur les Green Lanterns, ça le fait?
Alors, niveau dessin, c'est sympathique, ouais, ça tient bien la cadence. Oui, ça
Ok.
va, ça a de
Et
la
là,
gueule.
tu viens quand même de me spoiler tout le Green Lantern.
Ah, tout le War of the Green Lanterns.
Ouais, complètement, ouais.
Ah bah
En
oui,
fait,
mais
j'en suis qu'à Blackest Night, donc.
ah oui, mais l'Aftermath, voilà, je veux dire, comment en parler sans parler de un petit peu ce qui s'est
Non, mais
passé
ouais, c'est
dans.
clair. Non, mais t'inquiète pas, je
Oh
vois
non,
que
mais
la trace.
il y a eu des choses, de
Non, il
très
y a
grands
plein de choses
trucs.
que tu ne sais pas.
Oui, voilà. Puis de toute façon, que Hal perd son anneau, je veux dire, c'est déjà arrivé par le passé, et rien ne dit qu'il va pas le récupérer le mois prochain, quoi. Bon, en tout cas voilà, donc bon épisode à prendre cette semaine. Très vite en Review Express, j'ai lu également le X-Men numéro 15, Chrisios au scénario, Paco Medina au dessin.
La fin de l'arc.
Ouais, c'est la fin d'un arc vraiment pas mal, où au fait une espèce de race extraterrestre avait donné le choix aux X-Men d'être l'espèce dominante sur Terre, quoi, leur avait donné cette possibilité. Au fait, ils les avaient rencontrés il y a très longtemps, et là, ils reviennent sur Terre, et ben au fait, ils s'adressent à Cyclope, et il y a une espèce de lutte un petit peu, on se demande qui, entre Cyclope et Magneto, pourrait céder à cette proposition. Mais reste que là, la fin de cet arc est quand même un petit peu décevante, parce que, bah, ça se conclut un petit peu rapidement, c'est ni plus ni moins qu'une espèce de baston contre les grands ennemis. Et voilà, bon, c'est un petit peu une fin en
De
demi-teinte, je dirais.
merde.
Et pourtant, moi, j'ai pas encore lu le 15, donc je peux pas me prononcer sur celui-là, mais je trouve que depuis le relaunch de la série X-Men, que c'était l'un des meilleurs
Ah
arcs.
ben oui,
ah ben
alors
oui,
tout à
parce
fait.
que c'est depuis qu'il n'y a plus Victor Hitchler, c'est
Ouais,
mieux.
mais
Non,
carrément. Non mais de toute façon, c'est simple, depuis des mois, c'est la meilleure histoire des X-Men que j'ai pu lire, et le problème, c'est que c'est celle qui aura sans doute le moins d'impact, enfin l'une de celles qui aura le moins d'impact. Alors que c'est carrément plus intéressant ce sujet-là, qu'on voit dans cet arc, que par exemple la première partie de Schisme. Voilà. Donc vraiment dommage, Chris Yost devrait avoir plus de poids. Parce que ce qu'il écrit en général, j'accroche.
D'accord.
Donc
Donc.
bon, là je vais dire un check-it pour la fin parce que c'est vrai que ce numéro-là n'est pas le meilleur.
D'accord. Eh bien, avant de terminer, puisqu'on est sur Marvel, j'ai un truc dont j'ai oublié de parler tout à l'heure. Marvel a bien joué son coup de com' cette semaine en sortant un numéro qui s'appelle Venom Flashpoint.
C'est
Hein?
vrai, je
Les
t'ai pas vu passer.
gros enfoirés. Venom Flashpoint, c'est un numéro de reprint en plus, où on retrouve le 654.1 qui est aujourd'hui quasi introuvable ou à des prix monstrueux, avec aussi le backup du 654 et le Venom numéro 1. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas trop les comics, faites gaffe, il y a Flashpoint, c'est chez DC, c'est pas chez Marvel. Donc Venom Flashpoint n'a rien à voir avec le crossover en cours chez
Sinon vous allez
DC.
vous faire tirer les oreilles par Steve. Mais
Non, non, mais enfin, voilà, je trouve ça super salaud, quoi, de jouer sur le titre comme ça, c'est
attends,
franchement abusé.
le 654.1, on le trouve plus.
Mais il est très difficile à trouver
Ah
apparemment.
bon, tiens, étrange. Je savais pas.
Mais oui, c'était la première apparition de Venom. Tu sais, c'était le point 1, soi-disant le jumping point pour les nouveaux lecteurs, où on ne voyait pas Spider-Man.
Ah oui.
Épisode qui était pas mauvais, sauf qu'il remplissait pas du tout sa fonction de point 1, quoi. Bref, ne vous faites pas avoir, ça n'a rien à voir avec l'event en cours. Eh bien voilà, c'est tout pour cette semaine.
Oui, c'est tout pour cette semaine et on se quitte, comme d'habitude, avec le rappel, pas des titres, mais de où on peut nous retrouver tous.
sur le site, vous pouvez nous laisser un commentaire pour réagir à nos reviews, nous donner votre avis ou réagir aux news, etc. Sur Facebook aussi, bien évidemment, sur Twitter. Puis vous retrouvez les derniers épisodes sur iTunes, les plus anciens sur le site.
Et puis les coups de gueule critiques de Sam sur le site, ainsi que les articles de Nono, de Jean-Lo. Enfin voilà. Quoi
Et
d'autre?
puis on va se
C'était
quitter
avec un
comme
mot de la fin de
d'habitude.
Nono.
Ouais. Alors, mon mot de la fin, ce sera le titre d'une chanson, vu qu'on était très porté sur la musique aujourd'hui. Donc, mon mot de la fin, ce sera Bomba Triste.
Ah, attends, c'est pas le truc, elle est fantastique là.
Non. C'est, vous tapez sur YouTube Bomba Triste. Et vous allez voir l'une des meilleures chansons des années 80 qui puisse exister.
Tu
J'ai
t'écris comment?
peur.
Bomba et triste, comme quelqu'un de
Bamba, comme la
triste.
bamba, c'est la chanson Bala Bala
Bomba.
la bamba,
Ouais.
et Triste, comme la tristesse. C'est chanté par Pierre Billon. Et le clip vaut vraiment son pesant de
Attends,
cacahuète.
Pierre Guillon?
Pierre Billon.
D'accord. Et tu peux nous la chanter un petit peu?
Alors, je vais vous la chanter un petit peu, c'est Je me sens définitivement comme une bamba triste. Voilà,
Ouais,
c'est vraiment
moi je trouve que
magnifique.
c'est un grand bleu là.
Non, en fait, déjà, vous avez la musique qui est très belle et les paroles. Je me sens comme une bomba triste, comme une Marseillaise en mineur jouée par un flûtiste autodidacte sans tact.
Ah, putain.
Comme un producteur gros cigare qui lit le score à l'envers et qui en plus qui a perdu son chien policier, celui qui lui touche le pied chaque fois que c'est le premier temps.
Eh ben, tu sais quoi? C'est le meilleur mot de la fin qu'on ait jamais eu.
Voilà, Bamba Triste.
Oh putain, c'est vraiment émouvant. Bon bah, je pense qu'on peut tous se quitter serein.
J'ai déjà quitté le monde des vivants depuis longtemps.
On dit peut-être au revoir aussi en même temps.
Ouais, on va dire au revoir surtout.
Oui.
Surtout qu'on va se quitter très vite.
Au revoir.
On se retrouve la semaine prochaine. Nono, j'espère que ça t'a plu.
Non.
Eh bien, pour la peine, tu seras réinvité.
D'accord.
Et j'espère que les auditeurs aussi n'ont pas aimé et du coup Nono sera effectivement réinvité plus souvent.
Voilà, n'hésitez pas.
Et on se redit bon et merde.
Et on se
Merde.
retrouve dehors pour
Oh
aller
la
boire
fin
une
de
bière,
merde.
tranquille.
On se retrouve donc la semaine prochaine peut-être si je me suis pas suicidé avant.
D'accord.
Et voilà.
Eh bien, bonsoir tout le monde.
C'est la fin la plus horrible. À la semaine prochaine.
Au revoir.